Alors, ce matin, on va poursuivre notre étude des signes qui se trouvent dans l'évangile de Jean. On arrive au septième signe. Donc, les signes, ce sont simplement les miracles que Jésus a faits. Et comme je l'ai dit à chaque fois, le but de l'évangile de Jean, c'est d'établir que par le témoignage qui est rendu sur la personne de Jésus, c'est d'établir le fait qu'il est bien le Fils de Dieu, le Christ qui a été annoncé par les prophètes. Le but de Jean, c'est pas que les disciples espèrent ou supposent que Jésus soit le Christ, mais qu'ils en aient vraiment la conviction profonde. Et ce qui est appelé à donner cette conviction que Jésus est le Christ, c'est les miracles qu'il fait, les signes qu'il produit. On sait que nous, en tant qu'hommes, on est très friands de preuves scientifiques, en quelque sorte. On veut que les choses soient démontrées. Mais on pourrait presque dire que les miracles que Jésus fait sont la preuve scientifique, matérielle, que Jésus est bien le Christ. Et pourquoi est-ce que ces miracles sont cette preuve? Parce que ils possèdent, on peut dire, une signature divine. Ce que Jésus fait ne relève pas de la compétence humaine. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce que Jésus fait. Et donc les miracles sont la preuve scientifique, on peut dire, que Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu. Et je crois, c'est pas pour rien que Jean écrit dans ce sens, parce il veut nous aider aussi à être des témoins de Jésus. Et pour être des témoins de Jésus, eh bien, il nous suffit de regarder dans les évangiles ce que Jésus a fait. Quand on utilise les évangiles pour parler aux gens, utilisons les signes qui sont là et demandons aux gens de conclure eux-mêmes. Qui peut faire cela? Finalement, c'est dans ce sens que l'évangile a été écrit. Alors, je rappelle les six premiers signes qu'on a déjà étudiés rapidement. Le premier signe s'est produit pendant les noces de Cana. Vous vous rappelez? Jésus a changé l'eau en vin. Il a changé la nature d'une chose pour en faire une autre. Et personne n'est capable de faire cela, sauf Dieu. À la fin de ce signe, il est dit, Jésus manifesta sa gloire. Il démontra qu'il était Dieu, et ses disciples crurent en lui en voyant ce signe. Le deuxième signe nous parle d'une guérison que Jésus a faite à distance. Un officier romain est venu vers Jésus pour son fils qui était malade et il a demandé à Jésus de venir chez lui. Jésus a dit, il n'avait pas besoin de se déplacer. Il lui a demandé simplement de croire à sa parole. Jésus a guéri cet homme à distance sans le voir, sans le toucher. Et quand l'officier romain est rentré chez lui, eh bien, il a découvert que au moment où Jésus a dit « Je guéris ton fils », ce fils était guéri. Jésus a guéri à distance. Il n'y a que Dieu qui peut être partout à la fois, qui n'a pas besoin d'être présent dans un lieu précis pour agir. Et Jésus possède ce don aussi. Le troisième signe, c'est la guérison de l'homme infirme depuis 38 ans, un homme qui ne pouvait pas marcher. Il était à la piscine de Bethesda. Et lors de ce miracle, Jésus a dit ceci: Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Ici, Jésus explique qu'il n'est pas un homme extraordinaire. Il ne peut rien faire par lui-même. C'est Dieu qui agit à travers lui, le Père. C'est parce qu'il y a une unité totale entre le Père et le Fils que Jésus est capable de faire ce qu'il fait. Il explique la raison, le secret de son pouvoir, en quelque sorte. C'est sa communion, son unité avec le Père. Le quatrième signe, c'est la multiplication des pains pour nourrir une foule de 5000 hommes, avec 5 pains et 2 poissons. Jésus explique, à travers ce miracle, qu'il est le pain de vie. Il est celui qui peut nourrir l'être humain, son être profond. « Vos pères, dit-il aux Juifs qui étaient là, ont mangé la manne que Dieu leur a donnée du ciel dans le désert, mais moi je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus veut souligner ici qu'il est la source de la vie. C'est lui qui possède la vie. Et cette vie est la seule qui peut nourrir l'être humain. Sans cette vie, l'homme n'a pas, en quelque sorte, de satisfaction profonde. Il est toujours à la recherche de quelque chose. Le cinquième signe, c'est la marche de Jésus sur l'eau, sur la mer, le lac de Galilée. Dans un moment où les disciples étaient seuls dans la barque, angoissés face à une tempête, ils voient venir quelqu'un vers eux qui marche sur l'eau. Ils ont peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus domine tous les éléments de la création. À un autre moment, il ordonnera même à la tempête et au vent de se calmer, de se taire. Un signe supplémentaire qui démontre que Jésus est Dieu. Il a le pouvoir sur tous les éléments de la création. Le sixième signe, celui qu'on a vu la semaine dernière, c'est la guérison de l'aveugle né. Un aveugle né. Et vous vous rappelez que Jésus a pris de la boue pour guérir cet homme. Il a agi comme Dieu l'a fait la première fois lorsqu'il a créé l'être humain. Il a pris de la terre. Et la guérison de l'aveugle né, ce n'est pas simplement un acte de guérison, c'est un acte de création. Jésus refait ce qui n'a pas marché lors de la première création. Jésus dira dans Jean 14, verset 11, ce que j'ai dit au début, aux Juifs, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Il leur dit, « Ce que je fais vient, démontre que je vis dans cette relation, que le Père est en moi et je suis en lui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Si vous ne pouvez pas croire que je suis à la fois Dieu et à la fois homme, eh bien, regardez ces œuvres et constatez vous-même. Elles sont la preuve scientifique, on pourrait dire la démonstration de qui je suis. Alors ce matin, on va aborder le septième signe qui est le plus grand. Parce qu'ici, Jésus ne va pas simplement rétablir quelque chose qui a été cassé ou mal fait, mais il va ressusciter un homme qui était mort. Et je vous propose, on va lire ce chapitre de façon progressive. On va commencer par les 5 premiers versets du chapitre 11 de Jean. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Les premiers versets de ce chapitre nous montrent les liens profonds d'affection qui liait Jésus à la famille de Lazare, de Marthe et Marie. Il nous est parlé de Marie, la sœur de Lazare, qui était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'est dire l'attachement profond de cette famille à la personne de Jésus. Plusieurs passages des évangiles nous montrent que quand Jésus passait à Béthanie, dans le village de Marthe et Marie, il s'arrêtait là, il mangeait avec ses disciples, et la maison de Marie et Marthe et de Lazare était le lieu où il enseignait ses disciples. C'est un peu comme une école, en quelque sorte, et c'était vraiment son pied-à-terre pour enseigner les gens quand ils passaient par là. Alors les évangiles soulignent la proximité de Jésus avec Marthe et Marie. On ne parle pas trop de Lazare, souvent, mais il y avait quand même un lien profond d'affection entre Lazare et Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Lazare tombe malade, les deux sœurs envoient dire à Jésus, elles envoient un messager pour dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Moi, j'aurais, à leur place, j'aurais dit « Notre frère Lazare est malade. » Hein, c'était le plus court. Mais en écrivant cela, « Celui que tu aimes est malade », elles n'ont même pas besoin de préciser qui c'est. Elles savent que Jésus comprendra. « Celui que tu aimes, c'est Lazare. » D'ailleurs, au verset 5, comme on l'a lu, il est dit « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Si les deux sœurs envoient ce billet, je pense que c'est pour, en quelque sorte, demander à Jésus de se hâter. Elles jouent sur les liens d'affection qui existent entre Jésus et eux pour lui dire « Viens, celui que tu aimes est malade, dépêche-toi, en quelque sorte. » Qui ne se dépêcherait pas de venir pour sauver, s'il en a les moyens, quelqu'un qu'il aime? Si nous savons un ami proche, quelqu'un de notre famille qui est en danger, qui est malade, eh bien nous laissons tout en plan et nous allons au plus vite vers lui. Mais on lit que Jésus ne se presse pas. On va lire au verset 6, « Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. » Jésus n'est pas pressé. Malgré la pression sentimentale, on pourrait dire affective, qui le lie à Marie, Marthe et Lazare, Jésus reste là encore deux jours. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, quand on poursuit le récit, que même quand il décide de partir, il ne va pas se hâter plus vite. Il va mettre 4 jours pour rejoindre Marthe, Marie et Lazare, alors qu'il se trouve à peu près à 9 heures de route. Donc, Jésus a pris du temps. Jésus avait un timing précis dans la tête. Et ce qui le motivait, il le dit, plus que l'affection qu'il avait pour Marthe et Marie, c'était que la situation, le problème de Lazare, serve à la manifestation de la gloire de Dieu. C'était ça, sa motivation. Ce qui fait bouger Jésus, ce n'est pas les sentiments humains, c'est de révéler la gloire de Dieu. Jésus n'ordonne pas ses priorités en fonction de critères humains, même s'ils sont nobles. Ce qui lui importe, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, Jésus était prêt à attendre que Lazare meure, même si ça allait jusque-là. Ce n'était pas l'affection qu'il avait pour Marthe, Marie et Lazare qui décidait de son timing, de son agenda. C'était la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Lorsque Jésus termine son parcours, dans Jean chapitre 17, on a la célèbre prière finale de Jésus. Et Jésus dit, au verset 4, il conclut en quelque sorte son existence avec cette parole qui résume sa mission. « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Jésus vit avec le calendrier de Dieu, il ne vit pas avec celui des hommes. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous. Parce que dans les besoins qu'on a, on est souvent pressé que Jésus arrive et qu'il dénoue les situations dans lesquelles nous sommes, qui peuvent être compliquées. Mais Jésus a en tête et à cœur d'abord que la gloire de Dieu puisse être révélée. Qu'à travers ce que nous vivons, ce soit la personne de Dieu qui soit démontrée, manifestée. Nous avons raison de lui faire part de nos besoins, mais nous ne pouvons pas commander l'agenda de Jésus. C'est lui qui décide de la manière et du moment où il va intervenir. Et Jésus ne se trompe pas dans sa façon d'agir. Parfois, nous avons l'impression qu'une situation est vraiment perdue. Il n'y a plus de solution, comme c'est le cas ici, on le verra. Mais ce n'est pas le problème pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il est Dieu, c'est qu'il n'y a rien qui soit absolument perdu pour lui. Tout peut être relevé, restauré, comme on en a parlé tout à l'heure. On va aller un peu plus loin et continuer le récit à partir du verset 7. Puis il dit aux disciples, donc après qu'il soit resté 2 jours à l'endroit où il était, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi afin de mourir avec lui. » Souvent, quand on voit les disciples avec Jésus, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas tout. Ils sont souvent décalés par rapport à Jésus. Jésus dit des choses, pense d'une manière, mais lui raisonne de façon humaine. Et certainement, ils avaient supposé que si Jésus n'était pas parti pour guérir Lazare, ben c'est parce qu'ils savaient que la dernière fois qu'il était allé dans cette région, eh ben il avait failli mourir. Et ils se sont dit, Jésus est prudent, il ne va pas partir et risquer sa vie en allant de nouveau vers Béthanie, qui est proche de Jérusalem. Jésus leur répond que ce n'est pas du tout pour cette considération-là qu'il a pris du temps. Il leur dit, il dit un peu ce qu'il avait dit à l'aveugle né, « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » C'est intéressant parce que on a vu tout à l'heure que l'affection qu'avait Jésus pour Marthe, Marie et Lazare ne décidaient pas de son programme. Mais on voit ici que les menaces qui pèsent sur lui ne décident pas non plus de la mission qu'il va accomplir. Il sait qu'il risque sa vie, mais tant qu'il fait jour, tant que la lumière est là, tant qu'il en a le pouvoir, eh bien, il doit faire ce que le Père attend de lui. Et Jésus n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Toute sa vie, il a privilégié d'abord l'obéissance à Dieu. Et on peut être reconnaissant envers Jésus pour ce principe qui a guidé sa vie tout le temps, parce que c'est ça qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix. Quand il était dans le jardin de Gethsémané et qu'il a vu la coupe de souffrance qui l'attendait, Jésus a dit « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La vie de Jésus, c'est un entraînement perpétuel, on peut dire, à obéir à la volonté de son Père. La détermination dont Jésus fait preuve, c'est comme un muscle, il s'est entraîné toute sa vie. Et c'est pour ça qu'au moment où il est mort, où il a dû aller jusqu'à la croix, il était prêt, parce qu'il a appris cela. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a appris l'obéissance au travers de la souffrance. Est-ce que nous sommes conscients aussi que nous sommes dans cette école? L'école de Dieu, c'est l'école de l'apprentissage de l'obéissance envers et contre tout. C'est ce que Jésus dit ici. Même s'il risque sa vie en allant en Béthanie, c'est pas ça qui va décider, c'est la volonté de son Père. En même temps, Jésus poursuit un second but. Le premier but, c'est la gloire de Dieu, mais le second but, c'est la formation de ses disciples. C'est pour ça qu'il dit « À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Il se réjouit du fait que Lazare a dû mourir et qu'il n'est pas allé trop tôt là-bas, parce que, à travers ce qu'il va faire, il va former les disciples, ancrer leur foi et démontrer une fois de plus qu'il est le Fils de Dieu. Il y a deux choses donc qui, on peut dire, animent Jésus dans sa vie, c'est que la gloire de Dieu soit révélée et que les disciples soient équipés pour être des témoins de qui il est. Et c'est à ça qu'il travaille constamment, on peut dire. On va poursuivre le texte et on arrive ici à la rencontre de Jésus avec Marthe. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Dans ce passage, on voit tout le chemin qui s'est fait dans le cœur de Marthe vis-à-vis de Jésus. Il y a vraiment chez elle une conviction profonde que Jésus est le Christ. Et on peut dire que Marthe, c'est l'exemple même de ce que Jésus veut produire dans la vie de tous ceux qui le découvrent. Au début, sans doute, elle a connu Jésus comme un homme, puis elle a découvert son enseignement, sa parole, ses miracles, et elle arrive aujourd'hui à une pleine conviction. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Au début, Marthe fait un peu un reproche à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais on voit que sa foi dépasse ses sentiments, parce qu'elle dit même maintenant, Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » On voit la foi de Marie, de Marthe en Jésus. Marthe est persuadée que Jésus a le pouvoir encore de faire quelque chose, même dans la situation d'extrémité dans laquelle se trouve son frère. Elle n'a peut-être pas encore tout saisi, mais Jésus va l'aider à progresser jusqu'à ce qu'elle croie vraiment ce qu'elle affirme. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe exprime « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Messie qui devait venir dans ce monde. » Marthe nous montre ce que signifie croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire qu'il est Dieu, qu'il a autorité sur la mort, la maladie, sur tout ce que le péché a introduit dans l'humanité. Croire en Jésus, c'est croire qu'il y a une parfaite communion entre le Père et le Fils. Tout ce que tu demandes au Père, Dieu, il le fait. Tout ce que tu demandes à Dieu, il le fait. Jésus n'est pas simplement un prophète, il est vraiment le Fils de Dieu. Il vit dans cette relation permanente avec le Père. Il épouse la volonté du Père et tout ce qu'il demande est en accord avec le Père et le Père le fait. Et croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est croire qu'il est celui qui donne la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, continuera à vivre. C'est ce qu'il dit. Et si nous croyons cela, eh bien, nous pouvons être assurés, comme Marthe, de notre salut, de la vie éternelle. On va voir maintenant comment Jésus opère. On va lire la suite dans Jean 11. On va lire les versets 28 à 44. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et il te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Je vais voir jusqu'où je vais là. Je continue un peu. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Face à Lazare, on voit 2 réactions de Jésus. La première, c'est le chagrin, la peine. Jésus pleure. Jésus est un homme comme les autres hommes, même s'il est fils de Dieu. Et la Bible dit qu'il est devenu homme, qu'il a épousé notre condition humaine. Il n'est pas indifférent au malheur qui afflige ou qui frappe les êtres humains, en particulier ses amis, ceux qui lui sont proches. On doit toujours se rappeler de cela aujourd'hui. Certes, Jésus est retourné dans le ciel, mais l'Épître aux Hébreux nous dit que si nous avons dans le ciel un grand prêtre efficace, quelqu'un qui nous entend, c'est parce qu'il a connu nos faiblesses, il a vécu dans la même chair que nous. Il peut compatir parfaitement à ce que nous vivons, à ce que nous connaissons ici. Nous pouvons nous approcher, dit la Bible, du trône de sa grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Je crois qu'on ne réalise pas assez que celui qui se tient devant le Père a été un homme comme nous. Il connaît parfaitement, il est en mesure de comprendre toutes les difficultés, les peines, les souffrances que nous pouvons connaître ici-bas. Nous n'avons pas un Dieu lointain qui serait insensible parce qu'il n'aurait pas connu l'humanité, mais il a partagé avec nous la condition humaine. Et c'est pourquoi il sait ce que c'est que de pleurer, il sait ce que c'est quand il voit un de ses enfants aussi pleurer à cause de quelque chose qu'il vit, une souffrance. Il n'y a aucune situation humaine que nous puissions connaître que Jésus n'a pas connue dans son humanité. D'abord, Jésus fut peiné, mais il y a une deuxième émotion qui nous est dite ici, et peut-être elle passe plus inaperçue que la première, c'est qu'il est indigné, la Bible dit. Quand on prend ce mot dans la Bible, c'est pas simplement une gêne, ça manifeste vraiment une forme de colère. Jésus est en colère ici. Il est en colère contre la mort. On n'a pas l'impression, parfois, que oui, ce qui a poussé Jésus à venir dans ce monde, ce n'est pas simplement l'amour qu'il a pour les êtres humains, c'est la colère qu'il a contre le diable, contre le péché et contre la mort. Jésus ne peut pas accepter que la mort est le dernier mot dans la vie des êtres humains. Et c'est pourquoi il est ici en colère, il est indigné. Chaque fois que Jésus se met en colère dans la Bible, c'est parce qu'il est face à quelque chose qui existe et qui ne devrait pas exister. Il se met en colère dans le temple, parce que dans le temple, on trafique, on fait du trafic, au lieu de faire du temple une maison de prière. Il y a quelque chose qui est là, qui gêne, qui choque Jésus, qui l'indigne, parce que ce n'est pas là que ça doit se faire. Il est en colère contre les pharisiens parce qu'ils voient beaucoup d'hypocrisie dans leur culte, leur façon d'être devant Dieu. Et ici, Jésus démontre aussi son indignation face à la mort. Certes, Jésus aime Lazare et il a à cœur de répondre à la prière, aux besoins, aux cris de ses sœurs, pour lui, mais ce qui pousse Jésus aussi ici, c'est sa colère, on peut dire, sa haine de la mort, du péché et des œuvres du diable. Le diable est le prince de la mort, la Bible dit, celui qui en a le pouvoir. Et Jésus ne veut pas laisser au diable le dernier mot. Il va donc aller à la tombe et ordonné par une simple parole que Lazare sorte. Il l'avait dit au début à ses disciples, la maladie de Lazare n'aboutira pas à la mort. Ce n'est pas la mort qui aura la victoire, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. S'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous dans la vie, c'est parce que Jésus déteste la mort, déteste les œuvres du diable. Et il n'est pas question pour Dieu de laisser au diable le dernier mot, ni la mort. Jésus ordonne à la mort, de lâcher prise par rapport à Lazare. Il donne l'ordre à Lazare de sortir, mais c'est à la mort qu'il commande. Lâche ta proie, laisse-le partir. Jésus se met volontairement en scène ici, il ne fait pas en secret, mais devant toute la foule, il prie son Père et il donne cet ordre à Lazare de sortir. C'est intéressant de voir ici que Jésus parle à Lazare comme s'il vivait. La mort, bien qu'il soit mort, il continue à vivre. Et dans Jean 5, verset 25, un jour, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais nous allons vivre ce que Lazare a vécu. Jean 5, 25, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Tous ceux qui sont partis avant nous, qui sont morts, un jour vont aussi se lever parce que Jésus va leur en donner l'ordre. Si nous appartenons à Jésus, nous n'appartenons plus à la mort. Nous sommes déjà habités par l'esprit de résurrection, dit la Bible. Et donc ici, Jésus opère un miracle extraordinaire qui signe, on peut dire, la fin de tous ces miracles, qui conclut vraiment la démonstration qu'il est le Fils de Dieu. Quel est le résultat de l'œuvre de Jésus? Alors, il est mitigé. On va lire les versets 45 à 48. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Un peu plus loin, au verset 53, il est dit « Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. » La foi reste un choix, on le voit ici. Au travers du témoignage de Jésus, certains en arrivent à la conclusion qu'il est vraiment le Fils de Dieu, mais d'autres restent hostiles, même si la démonstration est puissante. Ça souligne le fait que, en fait, personne, s'il n'est conduit par l'Esprit de Dieu, convaincu par l'Esprit de Dieu, n'arrive à croire par lui-même. Même les plus grands miracles ne suffisent pas à produire la foi. Il faut une action de Dieu dans le cœur. Et c'est terrible parce que, on le lit dans le chapitre 12 suivant, non seulement les pharisiens veulent tuer Jésus, mais ils veulent tuer aussi Lazare, alors que Lazare vient de ressusciter. Qu'est-ce qu'on peut conclure et retenir de ce récit? Plusieurs choses. On veut se rappeler d'abord que ce qui motive Jésus à agir pour nous, c'est d'abord la révélation de la gloire de Dieu. On doit s'en souvenir. Il se peut que Jésus ne réponde pas à nos attentes de la manière dont nous l'espérions. Il se peut que son agenda ne corresponde pas au nôtre, ni sa façon de répondre à nos désirs, à nos attentes. Mais Jésus ne se trompe jamais. Et ce qu'il fait est toujours meilleur, plus glorieux, plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Le but de Jésus, c'est de révéler, manifester la grandeur de Dieu. Et parfois, il laisse les choses dépérir, même jusqu'à la fin, même à un stade où on dit tout est perdu sur le plan humain, pour agir et démontrer quelque chose. Je vous rappelle le témoignage de cet homme, on en a parlé la semaine dernière. Que peut faire un homme qui n'a ni bras ni jambes? eh bien, Jésus peut l'utiliser, faire quelque chose d'incroyable, d'inouï, parce que justement, il est le Fils de Dieu. On doit se rappeler aussi que ce qui fait que Jésus est venu dans ce monde, c'est pas simplement l'amour qu'il a pour nous, mais c'est la colère qu'il a contre le diable, le péché et la mort. Et Dieu est déterminé à ne pas laisser le dernier mot de l'histoire à celui qui a introduit le péché dans le monde. Jésus est appelé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et la Bible dit qu'il occupe aujourd'hui dans le ciel cette position. Il est assis à la droite de Dieu et il attend que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il est celui qui triomphe et qui a triomphé de toutes les adversités, de toutes les choses mauvaises qui sont entrées dans l'humanité à cause du péché. Notre part à nous, c'est de lui faire confiance. Je vais juste terminer en reprenant ce mot de Jésus à Marthe. C'est moi, dit-il, qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Demande Jésus à Marthe. Nous avons en Jésus un espoir extraordinaire. Même si nous allons passer par la mort, je ne sais pas, le Seigneur reviendra-t-il avant? Quoi qu'il en soit, celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Il a la vie éternelle. Et c'est vraiment ce que Jésus est venu nous apporter. C'est ce que les évangiles, c'est le but des évangiles. Ils sont là pour nous amener à comprendre que Jésus est venu nous apporter la vie éternelle. Et que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Amen.